Pourquoi tu ne dois pas forcément suivre les gens qui font la même chose que toi sur Internet ? Et que faire à la place ? Je vais aussi te parler de mon engagement personnel envers mon temps et te rappeler que tout marche, mais pas pour tout le monde. Allez, c'est parti ! Bonjour, bonjour mes championnes et mes champions, j'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Bienvenue dans ce journal d'un solopreneur ou d'un slowpreneur, je sais pas trop comment l'appeler. C'est un peu le nouveau fil rouge que je veux tirer. Si tu as écouté l'épisode de la semaine dernière, tu comprends un petit peu mon cheminement, un petit peu mes questionnements sur le positionnement, mon positionnement global. Et donc, voilà, c'est un petit peu le fil rouge que je suis en train de tirer. En tout cas, tu vas comprendre un petit peu au fil aussi de l'épisode pourquoi cette notion-là est très importante pour moi. Si maintenant tu ne me connais pas, je m'appelle Bertrand Soulier, j'ai 47 ans et à l'approche de la quarantaine, j'étais un salarié obèse, déprimé, harcelé, malheureux. J'avais pourtant suivi la voie toute tracée, hein, bac, études, boulot. J'en suis sorti rincé et dégoûté, j'ai mis des années à m'en remettre et j'ai alors décidé de m'évader de ma roue de hamster, de devenir entrepreneur, de créer du contenu, des podcasts. Depuis, j'ai créé ma nouvelle vie de solopreneur, de podcasteur et de coach et je n'ai jamais été aussi libre et heureux et en fait, je veux partager avec toi, pas mon bonheur, mais comment faire la même chose, hein, comment suivre une voie qui te correspond et qui n'est pas forcément celle que tu peux avoir vue dans ta vie jusqu'à maintenant, mais aussi celle que tu vois forcément dans les médias, c'est-à-dire de créer une grosse entreprise, une start-up avec plein de salariés, parce que moi, c'est pas ce que je veux. Voilà. Donc, dans cet épisode, je vais te faire un peu un bilan de ma semaine, de mes réflexions, je te partage ça un petit peu, et j'espère que ça va t'aider à avancer, et te faire une idée aussi sur comment toi, tu peux faire les choses, hein, et non pas comment tu dois faire les choses. J'enlève le mot « doit », « il faut » ou quoi que ce soit. Non, comment toi, tu pourrais faire les choses. La première idée que je voulais partager aujourd'hui avec toi, c'est ne suis pas les gens que tu estimes être des concurrents. Ça, c'est une très mauvaise idée. Je suis tombé dans ce piège et je l'ai encore, hein, parce que dans mon flux de Instagram, par exemple, il y a des personnes que j'estime faire la même chose que moi, que je suis encore. Donc, tu peux les garder. Moi, je trouve qu'ils sont intéressants sur certaines notions qu'ils peuvent partager. Mais je pense que pour ta santé mentale, c'est pas très bon. Voilà. Je pense que si de voir les contenus de personnes qui font la même chose que toi, que tu estimes être des concurrents, te fout un peu en rogne, te fout un peu en colère, te dire oh là là, il a fait un peu la même chose que ce que je voulais faire, ou alors même un petit peu la même chose que ce que j'ai fait moi. J'ai par exemple en tête un podcasteur qui reprend un peu certains formats que j'ai pu développer. Il les appelle pas tout à fait de la même manière, mais en fait il le fait et puis il le fait avec en plus des personnes que j'ai pu avoir invitées ou des partenaires, etc. Il y a un moment, ça me gonfle et j'ai décidé de ne plus le suivre. Voilà, de ne plus le suivre parce que pour ma tranquillité d'esprit, c'est super bien. C'est tellement plus confortable pour moi. Et je voudrais aller plus loin que ça. Tes concurrents peuvent te paralyser en fait. C'est-à-dire que regarder ce qu'ils font peut te paralyser parce que tu vas te dire, ils ont créé ce que moi j'avais envie de créer, donc je peux pas le créer parce que finalement si eux l'ont déjà fait. Quand moi je vais le faire, on va m'accuser de faire la même chose qu'eux. Là, en général, en fait, quand tu débarres, surtout, les gens que tu vas suivre, ce sont des gens qui sont beaucoup plus avancés que toi. Et donc, en fait, toi, tu vas regarder ce qu'ils font, tu t'inspires, tu te dis, ah bah tiens, c'est une bonne idée de ce qu'ils ont fait, etc. Ça a l'air de marcher pour eux, et ben ça pourrait marcher pour moi. Donc, tu vas un petit peu t'inspirer, et en fait, tu vas devenir, d'une manière ou d'une autre, en fait, le numéro X hein, sur la liste, alors que toi, ton ambition, c'est de te créer un espace, hein, où tu es tout seul. Et là, en fait, en les suivant, tu risques en fait de devenir un petit peu comme eux. Mais si eux sont les leaders du domaine dans lequel toi, tu as envie de t'installer, et que tu fais comme eux, et ben finalement, tu deviens juste un petit peu une sorte de suiveur. Donc, dans un monde, alors je vais pas reprendre les notions d'océan bleu, d'océan rouge, etc. Mais dans ce monde-là, au lieu d'avoir ta place à toi, tu deviens un petit peu une sorte de copycat par moment, ou alors de quelqu'un qui est finalement pas très libre de faire ce qu'il veut parce que tu regardes toujours ce que font tes concurrents. Et puis, je le répète, ton concurrent peut te paralyser parce que toi, tu es à ton niveau de démarrage, hein, tu regardes ce que toi tu fais, tu regardes ce que tu sais faire. Ton concurrent, ça fait probablement très longtemps qu'il est là, donc il est très avancé, il a probablement beaucoup plus de moyens. Et en fait, il peut te paralyser parce que tu as l'impression de jamais être à son niveau. Et là, on va reprendre une image très classique. Ne te compare pas en fait à, je sais pas, si tu faisais de la musique par exemple, tu n'aurais jamais idée de te comparer directement aux Beatles, hein, alors que tu commences à faire de la guitare dans ton garage. Tu ne vas jamais te comparer aux Beatles en te disant bah moi ça fait 3 heures que je joue de la guitare, je suis un Beatles. Non, tu peux pas le faire. Donc en entrepreneuriat, c'est exactement la même chose. Tu ne dois pas te comparer à des gens qui ont une expérience plus importante que la tienne, qui sont beaucoup plus avancés, qui ont déjà créé leur audience, qui ont déjà créé leur clientèle. Ou alors, si tu le fais, tu le fais avec une vision un petit peu comparative et surtout analytique, en fait, en regardant aussi certaines choses qu'ils peuvent avoir. Par exemple, moi, dans mon domaine, il y a des gens, quand je regarde un petit peu ce qu'ils annoncent, leur chiffre d'affaires et tout, ça en met plein la gueule, plein la tête, tu dis oh, « voilà, c'est incroyable ». Quand tu regardes leur nombre d'abonnés, ça en met plein la tête, tu dis « oh là là, ils ont un nombre d'abonnés, c'est incroyable et tout ». Et puis quand tu fais un ratio en fait de leur nombre d'abonnés et des clients qu'ils annoncent, bah, tu te rends compte qu'en fait ils ont des taux de conversion qui sont pas terribles, terribles, terribles. Et après tu regardes, moi je regarde mes taux de conversion à moi et je me dis « bah mais finalement, pourquoi hein, je m'en fais hein, alors que finalement ce que je fais c'est pas si mal que ça. » Bah voilà, c'est comme ça. Donc si tu dois suivre des concurrents, fais-le avec vraiment beaucoup de détachement, et moi je vais plutôt te recommander de faire autre chose. Vraiment autre chose, c'est de suivre des gens dans d'autres thématiques mais qui ont finalement un peu le mode de vie que tu as envie de suivre, ou qui font un peu le même genre de produits, le même genre de contenu que ce qui pourrait te plaire. Regarde ce qu'ils font et comment toi tu peux l'adapter à ce que tu fais toi, à ta thématique, et toi comment tu fonctionnes. Je vais te donner un exemple hein, tout simplement. Tu es dans la musique, je sais pas pourquoi je prends la musique, hein, j'aurais pu prendre le cheval, j'aurais pu prendre la course à pied pour moi, que ce soit. Tu es dans n'importe quel domaine. Tu as ton domaine ou la domotique, allez, allons-y. Et ben dans ton domaine, tu fais des choses, tu cherches des idées. Ne va pas chercher des idées dans ceux qui font de la musique, du cheval, de la domotique ou quoi que ce soit. Hein, voilà, mais va chercher des idées chez ceux qui font du tricot. Bah oui, il y a des gens qui font du tricot, qui font des trucs assez hallucinants dans le tricot. Regarde ce qu'ils font dans le tricot et dis-toi, bah tiens, cette bonne idée qu'ils ont dans le tricot, comment je pourrais l'adapter dans ce que moi j'ai envie de faire dans mon domaine à moi. Voilà, tout simplement. C'est beaucoup plus intéressant pour toi parce que déjà tu te sors de cette analyse de ce que font donc des gens qui font la même chose que toi, de cette comparaison paralysante, et puis en fait tu vas te rendre compte que dans d'autres domaines il y a des gens qui sont extrêmement créatifs et que d'habitude tu les as jamais dans ton domaine. Tu vas me dire ouais mais moi le tricot ça m'intéresse pas. Non mais je te demande pas de faire du tricot, je te dis pas de faire du tricot, je te dis de regarder ce que des gens dans le tricot font pour développer leur petite entreprise, leur marketing, etc. Et de te demander si toi, tu pourrais l'adapter à ce que tu fais toi, avec ton domaine à toi, en te disant, bah tiens, il y a une bonne idée, tiens, ils font tel lead magnet, bah c'est une bonne idée ce lead magnet, je pourrais le transférer à ce que moi, je fais. Ou alors, la manière de faire, ou alors le fait qu'ils aient fait une communauté dans tel ou tel domaine, etc. Tu serais étonné d'ailleurs de découvrir que dans le tricot, il y a des gens qui font 1 million de chiffre d'affaires dans l'année avec une toute petite équipe, hein, vraiment une toute petite équipe, et que c'est juste hallucinant, quoi. C'est juste hallucinant, et que en fait, bah, ils ont plein de bonnes idées, et que ces bonnes idées, tu peux les retranscrire, bah, dans n'importe quel autre sujet, en fait. Mais par contre, si tu fais du tricot et que tu prends ces gens-là qui font du tricot, que tu fais exactement la même chose qu'eux, que tu t'inspires d'eux, eh bah, ben, je pense que tu ne perceras pas vraiment parce que tu resteras finalement une sorte de copie de ce que eux ils font. Voilà. Donc, c'est pour ça. Si tu fais du tricot, ne suis pas les gens qui font du tricot, mais si tu ne fais pas de tricot, et que ton domaine est n'importe lequel d'autre, eh ben, tu peux regarder les gens qui font du tricot. T'as compris mon esprit, en tout cas, ce que je veux partager avec toi. Maintenant, mon point 3 de cet épisode, c'est un engagement que j'ai pris avec moi-même. J'en ai parlé sur LinkedIn il y a 2-3 jours, donc voilà, donc il y a rien de... c'est pas un grand secret, je te le vois pas un grand secret, mais bon, tu l'as peut-être pas vu sur LinkedIn, donc je te rappelle, oui, je suis sur LinkedIn, je te rappelle que je ne suis pas un très grand fan de LinkedIn, mais que je vais essayer d'y faire un petit peu ma place, ce qui est un peu paradoxal par rapport à ce que je vais te raconter à la fin, mais je suis capable de le justifier avec moi-même, donc c'est le principal. Je t'ai dit que mon ambition, mon grand fil rouge, c'est d'augmenter les stats de mes podcasts. J'ai rajouté une petite ligne sur LinkedIn l'autre jour, c'est sans augmenter mon temps de travail. Bon, tu le sais, hein, c'est mon objectif de kilomètre 42, passer le 100 000 téléchargements. je t'ai donné un petit peu mes stratégies. J'ai commencé du moins de donner certains aspects de stratégie et tout. Mais en fait, il y a un élément qui est vraiment important pour moi, c'est ne pas produire plus d'épisodes, de ne pas me lancer dans de grands chantiers de vidéos. Et c'est d'optimiser exactement ce que je fais pour arriver à faire remonter les statistiques. Alors, elles ont bien remonté. Il y a un truc que peut-être que je t'avais pas donné. C'est que entre le mois d'avril de l'an dernier et le mois de décembre de l'an dernier, Kilomètre 42 avait perdu 2/3 de son audience, divisé par 3, tout simplement. Alors, le mois de décembre est un mois un peu particulier parce que j'ai publié moins d'épisodes, donc j'ai moins de téléchargements, hein, ça c'est un truc qui est très mathématique. Mais c'est qu'en fait, j'avais une croissance permanente qui s'était faite depuis le lancement du podcast jusqu'au mois d'avril dernier. À peu près à avril, le mois d'avril avait été très fort. Le mois de mai avait commencé à être une chute sur la fin du mois de mai. Juin, chute. Pendant l'été, ça avait fait une chute parce que j'ai publié moins d'épisodes. C'était commencé un petit peu à remonter, puis ça continuait un petit peu une chute. Là, ça remonte. Alors, je suis pas tout à fait remonté au même niveau que de avril de l'an dernier. Il y a des contenus que je dois relancer, il y a des choses que je dois faire différemment, mais en fait, je vais pas rajouter des épisodes. Il y aurait une stratégie pour augmenter le nombre de téléchargements qui serait de dire je rajoute à des épisodes et je fais un épisode par jour, par exemple. Ça marcherait sur le nombre de téléchargements, ça augmenterait pas la base d'audience, ça pourrait même la lasser, et puis moi surtout, ça m'épuiserait. Donc c'est pas du tout ce que je veux faire. Non. L'idée, c'est vraiment d'optimiser, donc de remplacer ce qui finalement ne marche pas très bien, de changer un petit peu les choses, de faire des nouveaux tests. Je t'avais parlé de taux de rétention, je vais en reparler prochainement dans différents contenus. J'analyse les stats, je regarde le SEO, j'ai changé des petites choses, et de même que je change les choses sur ce podcast. Tu as remarqué que j'ai changé mon intro, que je change le positionnement, que je tâtonne sur le positionnement précis de ce podcast. J'ai changé aussi une petite phrase dans le descriptif de ce podcast là. Dans Cheveux Blancs et des longues, justement, hein, j'ai changé un tout petit truc, pas gros, hein, pas gros en apparence, qui est dans le titre du podcast, et j'ai changé aussi un autre truc qui est pas gros en apparence non plus, dans le nom de l'auteur du podcast. Et là, pourquoi ? Parce que là, je te parle de SEO. Je t'en reparlerai très prochainement de cette notion-là, mais en fait, c'est d'essayer d'optimiser certains espaces que nous avons à notre disposition dans les catalogues de podcasts pour placer quelques mots-clés pour être plus découvert. Parce que à une époque, le podcast là, quand il s'appelait Votre Coach Web, était numéro 1 dans une catégorie qui était la catégorie marketing, et que actuellement, j'ai beaucoup de mal à le replacer dans une catégorie. Donc je suis en train de chercher quelle est la catégorie dans laquelle je dois le replacer, et puis je suis en train de chercher les moyens, hein, en fait, tout simplement, que des nouveaux personnes le découvrent. Donc si tu fais partie des gens qui découvrent par le biais de ces nouveaux mots-clés, ben bienvenue, voilà, bienvenue. Si tu fais partie des anciens de la maison, ben tu découvres un petit peu le chantier au fil du temps et tu vois un petit peu comment ça se passe. Sur Kilomètre 42, c'est exactement pareil. Sur Sport et Nutrition, ce sera à peu près pareil, hein, voilà, c'est l'optimisation un petit peu des choses, de regarder un petit peu ce qui peut fonctionner, ce qui peut changer, et surtout de mesurer un petit peu les résultats. Donc ça, il faut un petit peu de temps, hein. Un truc que je change le 13 ou le 14 février n'aura pas d'impact aujourd'hui, 16 février, quoique, hein, si c'est le cas, tant mieux. Voilà, si c'est le cas, tant mieux. En tout cas, je pense qu'il faut quelques jours, hein, le temps en tout cas que tout ça se remette un peu en place, que ce soit répliqué dans les différents catalogues, voir un petit peu les retours. Moi, je dois optimiser des choses, j'ai des méthodologies pour ça, et je suis en train de les mettre en place. Voilà, ça fait partie de mes chantiers du moment. Mais ce qui est important, c'est que je ne vais pas augmenter mon temps de travail. C'est-à-dire que je veux protéger en fait mon mode de fonctionnement. Et ça, c'est un élément qui est extrêmement important. Je t'en parlerai dans le dernier point. Mais c'est une question de valeur en fait. Je pense qu'on a tous des valeurs, hein, qui sont très importantes, et que la valeur que j'ai moi, qui est vraiment centrale aussi, c'est d'avoir du temps et de pouvoir vivre dans mes journées selon un mode d'organisation qui me laisse du temps pour bouger, pour faire du sport, pour passer du temps avec ma femme et ma fille, et en fait pour dormir aussi, pour pouvoir avoir du temps de m'occuper de moi et tout, et ne pas être dans une course, dans une roue de hamster entrepreneurial. C'est-à-dire ne pas avoir plus de temps de travail que j'en avais quand j'étais salarié. Quand j'étais salarié, j'ai eu des journées, et ça va peut-être vous sembler bizarre, mais même quand j'étais en collectivité locale, j'avais des journées dans lesquelles je travaillais plus de 10 heures. Donc j'ai pas envie de passer plus de 10 heures devant mon bureau, mais de toute façon, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire, donc je dois optimiser. Mais j'ai une valeur qui est importante, c'est de dire, moi j'ai envie de préparer des défis sportifs, j'ai envie de partager ma méthode de fonctionnement, j'ai envie de vivre selon une manière qui me permet en fait d'avoir un équilibre de vie et une qualité de vie. Et dans cette qualité de vie, il y a de pouvoir avoir du temps, de pouvoir apprendre des choses, de pouvoir apprendre de nouvelles choses. J'ai dit d'ailleurs à ma fille quelque chose hier important. J'ai dit, on va profiter des vacances. Je vais me remettre à l'harmonica. Voilà, c'est un vieux sujet. Hein, c'est une histoire d'harmonica. Sur les conseils de l'un d'entre vous, j'avais dit, tiens, je vais me mettre à la musique. Et sur les conseils de l'un d'entre vous, l'harmonica, c'est un instrument qui est facile pour commencer. J'ai l'harmonica, j'ai la méthodologie, mais je me suis pas beaucoup entraîné. Hein. Je m'étais beaucoup entraîné au dessin, pas beaucoup sur l'harmonica. J'ai dit à ma fille, pendant les vacances qui arrivent, on va aller courir un petit peu tous les jours et tout, on va faire un peu de sport, bouger, et puis on va aussi jouer un peu d'harmonica, on va essayer de s'entraîner, jouer un peu de musique, mais aussi faire des percussions, enfin des trucs comme ça, taper sur des cartons, je ne sais pas quoi, mais en tout cas avoir un peu plus de musique. Et ça, c'est une valeur qui est importante pour moi, non pas la musique, mais de faire des choses avec elle, et de faire des choses aussi pour moi, de préparer des objectifs. Je voudrais préparer un triathlon, même si j'ai un doute sur le fait que je pourrais m'inscrire pour y aller, pour des raisons de partenariat avec une autre marque. En fait, voilà, il y a une espèce de conjonction du calendrier, un truc à régler. Bon, je vais voir un peu comment ça se passe. Je voudrais préparer un ou deux marathons dans l'année. Je prépare des courses, je vais faire un défi vélo. Enfin, voilà, des choses comme ça. Donc là, il me faut du temps pour le préparer. Et en même temps, le fait d'en parler, de le documenter, c'est aussi ce qui vient nourrir mes autres podcasts. Donc, je dois le faire, hein, d'une manière ou d'une autre. J'ai dit que je ne devais pas utiliser « je dois ». Hein, donc, mais en tout cas, j'aime le faire, j'ai la volonté de le faire, je veux le faire, voilà. Et c'est plutôt que je dois, je veux le faire, c'est ce qui me plaît. Et c'est ce qui me permet aussi de nourrir, en fait, mon écosystème, mon Instagram, mes podcasts, etc. Et c'est comme ça que je fonctionne le mieux. Donc, je reviens là-dessus, sur cette notion-là, qui est importante pour moi. Vraiment, qui est importante pour moi. Et donc, je le répète, hein, c'est mon engagement avec moi-même, c'est que pour pouvoir le faire, eh ben, je dois pas augmenter mon temps de travail d'une manière infinie. Par exemple, le week-end dernier, il y a quelque chose qui m'a pas plu du tout dans mon week-end, c'est que j'étais obligé d'enregistrer l'épisode de Sam de Kevin 42, l'épisode de Sam du lundi, dimanche soir. Et ça, ça m'a pas plu du tout. Mais alors vraiment pas du tout, parce que j'ai passé plus de temps que je pensais. J'ai passé vraiment beaucoup de temps, parce que c'est un épisode qui me tenait vraiment à cœur. Mais j'ai passé trop de temps, et c'était pas du tout Sam, notamment par rapport au sommeil. Quoique je me suis pas couché si tard que ça. Mais par rapport au temps, par rapport à ma gestion du temps que je voulais, c'est pas du tout aligné avec ce que je veux faire. Donc voilà, donc c'est partie des choses sur lesquelles je dois faire attention. Je me suis mis un gros warning. Je pense que c'est vraiment important de savoir, toi, quelles sont les valeurs, quelles sont tes valeurs qui sont importantes pour toi, qu'est-ce que tu veux respecter, comment tu veux faire les choses. On a une vision, un petit peu, de ce qu'il faudrait faire, et je pense, en fait, qu'il faut sortir de cette vision-là, et je t'en parlerai juste après. Avant de te parler de ça, je dois te parler d'un autre truc, c'est mes futures formations que j'ai imaginées. J'ai fait une liste de formations, et ce sont des formations de petite taille. Ce sont des formations qui sont consommables, je pense, en une heure et demie, et qui sont réalisables donc à peu près dans le même temps, c'est-à-dire avec un mode assez facile de je filme mon écran, je te montre ce que je fais, je te explique ma stratégie avec soit un espèce de PowerPoint, soit une mind map comme j'ai fait très souvent, donc ça me prend pas beaucoup de temps. Et l'idée, c'est de prendre un sujet très précis et de t'expliquer un truc sur un sujet extrêmement précis. La liste que j'ai faite, c'est 80% des formations présentes sur cette liste concernent le podcasting. 80% des formations concernent le podcasting. Et 20% le mode de vie, Sam, le sport, etc. Ça peut te sembler très curieux. Si tu as suivi mon évolution l'an dernier où j'avais dit je fais un all-in sur le sport, sur la partie mode de vie. Mais en fait, ce n'est pas étonnant du tout si tu suis mon quotidien et si tu reviens juste sur ce que je viens de te dire. C'est qu'en ce moment, mon esprit est totalement concentré sur ce que je veux faire pour augmenter mes stats de mon podcast, sur augmenter la visibilité, sur augmenter les partenariats et tout. Donc beaucoup centré sur les podcasts, sur ce que je fais sur les podcasts. Donc mon cerveau produit des idées autour de ça, donc je teste des choses autour de ça, donc j'ai des choses à raconter autour de ça, donc je documente ce truc-là. Est-ce un problème ? Oui, si je pense niche, c'est un problème, parce que mon compte Instagram est très orienté sur le sport, sur le mode de vie. Ma liste email se remplit autour de ce domaine-là. J'ai moins communiqué sur ces sujets-là. Est-ce que c'est un problème maintenant si je pense à mon bien-être mental ? Non. Parce qu'en fait, sinon, si je le faisais pas, je serais dans une frustration. Une vraie frustration. Et une frustration de me dire, j'avais l'idée de faire ça, je l'ai pas fait. Et puis de voir un jour quelqu'un qui le ferait, je me dis, j'avais eu cette idée-là il y a 2 ans et tout, et je l'ai pas fait. Et ça avait l'air sympa de le faire. D'autant que, en regardant un petit peu l'autre jour, je suis tombé sur un mail américain, un truc auquel j'étais abonné. Il y a des listes, ce que j'ai mis dans ma liste à moi, il y a d'autres gens qui l'ont fait dans d'autres thématiques, et puis même dans la même thématique, mais sur les États-Unis. Donc je me suis dit, ça ressemble vraiment exactement à ce que j'avais envie de faire. Donc ça me montre qu'il y a un potentiel. Alors je connais pas le potentiel de vente des personnes qui font ça et tout, mais en tout cas, l'axe pour moi me semble intéressant, et je pense en fait que ça peut répondre à la problématique de pas mal de personnes avec lesquelles je discute, et qui en tout cas pour moi me tranquillise sur un point, c'est que, et je l'ai dit il y a pas très longtemps dans un autre épisode, c'est que plus tu te rends visible dans ton domaine en faisant ce que tu fais, et plus tu as des gens qui vont te demander comment tu fais les choses. C'est peut-être un peu surprenant, mais plus mon podcast est visible et plus des gens qui ont envie de lancer un podcast vont penser à moi naturellement pour que je les aide à lancer leur podcast. C'est logique. C'est vraiment logique cette histoire, parce que en fait, si toi tu as envie de lancer un podcast, tu vas te aller voir des gens qui ont lancé un podcast et que dont probablement tu écoutes déjà le podcast. Si maintenant je te dis, moi j'ai 2 millions d'écoutes de mes podcasts, je génère des milliers d'euros de chiffre d'affaires chaque année en publicité sur mes podcasts, ça permet de vivre, ça me permet d'avoir le mode de vie que je veux et tout. Toi, si tu veux avoir la même chose, c'est-à-dire avoir partager tes pensées, créer un podcast, avoir un mode de vie, pouvoir te créer une activité avec, soit un projet entrepreneurial, tu vas te tourner vers quelqu'un qui connaît un petit peu le schéma, qui a vécu ça. Et en fait, y a pas que des gens qui sont officiellement coach podcast qui peuvent t'apporter ça, je veux te dire, tu vois. Pourquoi ? Ben parce que en fait, souvent, et je le dis, j'ai vu des coachs en podcast qui n'ont pas de podcast. J'ai vu des coachs en podcast qui ont 5 ou 10 épisodes de podcast dans leur carrière, qui ont lancé 1 ou 2 podcasts comme ça, mais qui ont très peu d'épisodes, qui n'ont pas beaucoup de téléchargements, mais qui sont très très bons dans ce qu'ils font. Hein. Ça ne veut pas dire qu'ils ne soient pas très bons dans ce qu'ils font, mais en fait, qui n'ont pas l'expérience sur le long terme de la création, qui n'ont pas tester certaines formules, etc. À l'inverse, t'as des gens qui ne font pas du tout de formation podcast, qui n'ont pas du tout de coaching en podcast, qui eux ont testé plein de choses, qui savent comment ça fonctionne et qui sûrement tu voudrais bien savoir comment ils font. Voilà. Bon, c'est valable pour le podcast, c'est valable pour YouTube, c'est valable pour plein de choses. Et à un moment donné, c'est normal que ces personnes-là qui excellent dans un domaine, tu t'en sers un petit peu comme domaine en te disant, je voudrais bien faire la même chose. C'est un peu comme moi, par exemple, Casinestat. Casinestat, il fait des vidéos, il fait ses vlogs, etc. en vidéo. Le jour où il sort une formation sur comment il raconte une histoire en vidéo, c'est intéressant. Le jour où il explique comment il fait des vidéos et il monétise ses vidéos, moi, ça va m'intéresser. C'est logique parce que Casinestat fait partie des grands dons de la vidéo sur YouTube. Et donc, quand tu suis une personne, tu dis, t'as envie de faire à peu près la même chose qu'il fait, mais dans une autre thématique. C'est-à-dire que, la thématique de Casinestat, il n'y en a pas vraiment. Donc, c'est une thématique lui-même, on va dire. Mais si je voulais reprendre des idées de ce qu'il fait et me dire, tiens, si je pouvais pas les appliquer, par exemple, à la course à pied. Et du moment qu'il partage quelque chose, ses coulisses, son matériel, comment il fait, comment il va démarcher les partenaires, etc. Tout d'un coup, je me dis, ça m'intéresse. Et c'est de lui que je voudrais avoir des contenus. Donc, ce que je te répète vraiment, ce qui est important que tu retiennes en tête, c'est que c'est normal à un moment donné que quand tu deviens plus visible dans ta thématique grâce à tes contenus, il y a des gens qui te demandent non pas des choses sur ta thématique, mais comment tu as fait pour être visible et pour réussir à faire ce que tu as fait. C'est totalement logique et c'est ce qui explique aussi qu'il y a beaucoup de gens qui deviennent, qui travaillent dans un domaine, par exemple qui étaient freelance, et qui deviennent finalement de coach de freelance parce que à force de créer du contenu sur comment ils ont fait leur truc, au début c'était pour se faire connaître en tant que freelance, et puis petit à petit ils ont élargi en disant bah comment ils ont réussi à se faire connaître en tant que freelance, et au bout d'un moment il y a les gens qui disent bah moi je voudrais bien devenir freelance, comment tu as réussi à te faire connaître, et ils leur disent bah écoute maintenant je, comme tout le monde me demande ça, je vais faire une formation, je vais faire du coaching pour aider d'autres freelances à devenir freelance. Et à tel point que ces gens ne sont plus du tout freelance à la fin. Parce que ils se sont rendus compte que l'autre activité était intéressante. Donc c'est pour ça que tu as aussi dans le domaine du coaching sportif, par exemple, des anciens coachs sportifs qui ne sont plus du tout coach sportif, mais coach sportif. Et beaucoup se moquent de ça, en fait, des coach. Mais pourtant, c'est la logique même des choses. C'est-à-dire que si je prendrais, je peux prendre n'importe quel domaine. Hein. Je peux prendre, par exemple, les voitures, un vendeur de voitures. Si je veux devenir vendeur de voitures, je vais regarder ce que font les autres vendeurs de voitures pour vendre plein de voitures et tout. Et si je trouvais un coach en vendeur de voitures qui a lui-même été vendeur de voitures, qui a vendu des, qui me dit j'ai vendu 1000 voitures par an pendant 10 ans, et j'aurais envie de savoir comment il a fait. Hein, donc tu vois, c'est totalement logique que ce super vendeur de voitures devienne un jour coach de vendeur de voitures. D'ailleurs, c'est ce qui se passe hein, dans les entreprises. Les meilleurs vendeurs deviennent des exemples et tout pour les autres et grimpent dans la hiérarchie et arrêtent de vendre des voitures et deviennent les coachs des vendeurs de voitures. Bon, voilà. Et ben, dans le monde internet, c'est aussi ce qui se passe. Et là où je dis que ça fait du bien à mon bien-être, hein, ça fait du bien à mon bien-être, oui, ça me fait du bien à mon cerveau. C'est qu'en fait, ça me permet de créer mon propre espace à moi. C'est-à-dire que, au lieu de ne parler que de course à pied et que de remise en forme, etc. Parce que au bout d'un moment, il y a ce truc-là, oui, mais pourquoi ça ? Je rappelle que mon mode de vie, mon SAM et tout, à l'origine, a été pensé pour être en forme, pour faire du contenu en ligne, pour faire du podcast, pour créer une entreprise, pour être bien dans son business et bien dans son activité et bien dans sa vie. Sam, mon mode de vie Sam, était pour être bien aussi dans son sport. Et en fait, être bien dans sa vie, être en forme, avoir de l'énergie pour créer du contenu, pour créer son entreprise, permet, par une espèce de boucle aussi, dont tu as compris mon cheminement, me permet en même temps, ben quelque part d'être de créer mon entreprise et de créer mon entreprise et de la développer me permet aussi d'assouvir mes projets sportifs, de construire mes projets sportifs. Et donc en fait les deux domaines ils sont totalement liés pour moi. C'est-à-dire que pendant longtemps j'ai cherché à savoir comment n'en choisir qu'un sur les deux, puis j'ai cherché à savoir comment les réunir, et puis en fait le truc c'est que ils sont pas vraiment réunis l'un l'autre. Je vais pas faire coach de podcasteur sportif par exemple, hein, le domaine serait vraiment tout petit, hein, même s'il grossit un peu, ça serait vite fait le tour, hein, il faudrait vendre très très cher du coaching à quelques personnes pour le faire, et donc ça serait très vite, très 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 vite embousé le truc. Mais en revanche, par contre, le fait de parler des deux thématiques, pour moi, me tranquillise. Alors, le truc à faire, et le truc que je fais, si t'es un peu dans le même cas, c'est de considérer qu'en fait, tu peux thématiser des réseaux. C'est pour ça que j'en reviens sur LinkedIn. Sur LinkedIn, je vais plutôt l'utiliser comme un journal de podcasteur. Ce podcast-là est un peu mon journal de créateur, d'entrepreneur, de solopreneur. Hein, tu comprends un peu le concept. Et puis, Kilomètre 42 et Sport Nutrition sont des podcasts qui sont vraiment, eux, nichés sur la partie sport, santé, bien-être, retrouver la forme, etc. Et en fait, alors, je dis pas que je vais pas tout mélanger. J'invite des entrepreneurs dans Kilomètre 42 pour voir les bénéfices de l'un et de l'autre. On reste sur le sport pour être un meilleur entrepreneur, pour se sentir en forme. Hein, on est, voilà, dans la logique, le point central, ça reste le sport. Et sur ce podcast ici, si j'avais des invités, je leur parlerais peut-être de comment le sport peut les aider. Mais le but du jeu ne serait pas surtout de parler sport, serait surtout de parler de comment en fait ils développent leur activité, comment ils ont développé leur entreprise, et que ce soit du tricot, que ce soit n'importe quel autre domaine. Voilà, tu as compris un peu la segmentation. Et c'est vrai que sur LinkedIn, si tu ne me suis pas encore sur LinkedIn, et si tu veux me suivre sur LinkedIn, je vais beaucoup parler en fait de ce que je viens de te dire sur un peu mon journal, ce que je fais pour développer le podcast, comment je fais pour développer mes podcasts, comment je fais pour développer mon mode de vie, mon rythme de vie et comment je fais pour gérer cet aspect-là. Dernier point que je voulais aborder aujourd'hui, c'est que, je te l'ai dit, Ça, c'est une conviction forte chez moi. Tout fonctionne, mais pas pour tout le monde. C'est important, tout fonctionne, mais pas pour tout le monde. Et en fait, c'est un élément qui peut t'aider quand tu veux te lancer. Tu peux penser qu'il existe une manière de faire les choses et une seule manière de faire les choses, parce que ça, c'est notre côté scolaire, c'est comme ça que l'éducation nationale nous a formés, c'est aussi comme ça que nous avons été éduqués. C'est-à-dire qu'il y a une recette, il y a un moule, et il faut faire rentrer cette recette dans ce moule. Voilà, c'est comme ça. C'est comme si tu considérais qu'il existait qu'une seule recette de la tarte tatin. Et tu dis ça à un chef, et il va te foutre de ta gueule. Si tu lui dis, oui, il existe une seule recette de la tarte tatin. Et il va te rappeler déjà que la tarte tatin était une erreur au départ, qu'il n'en existe pas qu'une seule recette, mais que chacun a sa recette, que la cuisine, ce sont des ingrédients, mais que tu peux les faire évoluer comme tu veux, et que le truc, c'est que à un moment donné, t'as des ingrédients, que tu vas les combiner comme tu veux, que tu vas pouvoir les refaire comme tu veux, à l'infini, que ça sera une inspiration des choses, mais que ça restera ta manière à toi de faire les choses. Et d'ailleurs, tu veux un autre exemple, c'est un autre exemple qui est assez connu, et que là, tu vois, j'ai très bien vu, c'est le pain. Le pain, c'est un ingrédient, on reste dans la cuisine ce matin. Le pain, tu sais, il y a pas grand-chose, hein. Y a de la farine, de l'eau, du sel et de la levure, et pas grand-chose. Pourtant, quand tu vas dans une boulangerie, tu es surpris par le nombre de pains différents qu'il existe. Pourquoi ? Parce que dans chaque fois, il y a une petite variation qui va se faire. Il va y avoir une variation sur la forme. Il y en a qui font des couronnes, il y en a qui font des boules, il y en a qui font la traditionnelle baguette. Il y a une variation qui va se faire sur la farine. Farine blanche, farine complète, farine de petite épeautre, farine de sarrasin, etc. Et puis, il va y avoir une différence qui va se faire sur la cuisson. Et puis, il y a une différence qui va se faire sur avec ou sans sel. Alors, le pain sans sel, c'est dégueulasse, hein, mais bon, c'est comme ça. Il va se faire avec la forme de la levure. Hein. Au lieu de mettre du levure, on fait du pain au levain. C'est pas la même chose. On va pas le faire vivre de la même manière et tout. Voilà, voilà. Tu comprends le truc. Et quand tu rentres dans une boulangerie, tu n'es pas du tout surpris de trouver différentes formes de pain. De même que quand tu voyages, tu te rends compte que certains vont faire des pains cuits dans un four de bois, dans d'autres des poêles, dans d'autres des appareils un petit peu différents et tout. Et que finalement, il y a dans des pays, ils font des choses qui ressemblent à des galettes. Et quand tu regardes les ingrédients, tu te rends compte que c'est exactement les mêmes ingrédients que ta baguette de pain. Vraiment la même. Sauf que la variation d'un petit ingrédient, plus ou moins d'eau par exemple, ou une farine un tout petit peu différente, va faire que chez un, ça ressemble à une crêpe et que chez l'autre, ça ressemble à un pain. Ben voilà. Et ben, tu peux pas dire, en fait, quand tu regardes, tu pourrais dire, il n'existe qu'une seule recette de pain. Et là, tu sais, t'as un peu les ayatollahs du pain qui vont dire, il n'existe qu'une seule recette de pain. Et un boulanger va te dire, oui, mais moi, je suis capable de faire avec ces quatre ingrédients différents pains différents, simplement en changeant un petit peu la nature des ingrédients ou la manière de les mélanger. Et ben, l'entrepreneuriat, c'est exactement la même chose. Tu peux penser, par ton côté scolaire et tout, qu'il n'existe qu'une seule chose, qu'une seule moyen de faire. Le côté scolaire, en fait, nous a appris un truc, c'est que on a vrai ou on a faux. On apprend ça pendant très longtemps. Hein, est-ce que j'ai juste ou est-ce que j'ai faux ? Est-ce que j'ai bien tracé ma lettre ? Par exemple, ma fille, c'est est-ce que j'ai bien tracé mon A ? Oui, non. Est-ce qu'il est bien fait ? Parce qu'il y a une manière de tracer le A, c'est vrai. Quoique, si tu regardes bien un petit peu, il y a déjà 3 ou 4 formes d'écriture entre le attaché, le bâton, le tout, le cursif, etc. Déjà, tiens, il y a des petites variantes. Mais c'est sûr que en cours d'histoire, Marignan 1515, ça ne changera pas. Je veux dire, là, ça va pas changer. Hein. En quelle année la bataille de Jargovie a eu lieu, ça va pas changer du jour au lendemain, même si sur ce plan-là, tu vois, c'est peut-être pas le meilleur exemple que j'ai pu prendre au niveau de l'histoire. Bref, mais t'as compris le truc. Les maths, hein, si tu fais 1 plus 1 égale 2, c'est ça, c'est comme ça. Si t'écris pas ça sur ta feuille, hein, si ma fille l'an prochain en primaire on lui demande 1 plus 1 égale et qu'elle répond 3, et normalement en maths elle aura une mauvaise note, même si sur le plan purement si on réfléchissait philosophiquement aux choses, c'est une discussion que j'ai eu l'autre jour avec elle. Ah ouais, elle a 6 ans, mais on fait un peu de philosophie, elle fait un peu de philosophie à l'école. Elle me disait, 1 plus 1, ça fait le 2. Et je lui dis, écoute, est-ce que Camille, 1 plus 1, ça pourrait faire 3? Elle me dit, non. Et je lui dis, tu sais, une maman plus un papa égale une petite fille. Ça fait bien 3 dans une famille. Ah ouais. Bah ouais, c'est comme ça. Bon, alors, sur le plan mathématique, ce n'est pas juste, mais sur le plan de la nature, c'est pas totalement faux. Pourtant, t'as les deux mêmes chiffres, hein, et tu les poses de la même manière. C'est drôle, l'histoire. Et ce que je veux dire, en fait, c'est qu'entrepreneuriat, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que toi, tu es un, tu as ton sujet, tu as ce que tu veux parler, ton thématique, etc. Et en fait, tu vas faire un nouveau truc. C'est-à-dire que tu crées un nouveau truc, tu vas faire des nouveaux projets, des nouvelles choses, etc. Et en fait, tu n'as pas besoin de suivre une... Enfin, tu as peut-être envie de suivre une recette. C'est-à-dire que quand je fais une formation, je vais te donner des recettes. Ma recette à moi pour faire un podcast, ma recette à moi pour faire référencer ton podcast sur les plateformes. Ça, c'est des recettes. Mais en fait, tu peux en appliquer une partie. Tu peux aussi trouver ta propre variation. Je vais te donner, moi, les outils qui marchent. Mais le constat, en fait, c'est que tu as plein de manières de faire et que depuis des années, j'ai vu que tout fonctionne. Mais vraiment, mais tout fonctionne en fait. Il y a tout fonctionne. Par exemple, il y a des gens qui disent le blog n'existe plus, c'est mort et tout. Je te garantis qu'il y a des filles qui vivent de leur blog. Elles vivent de leur blog. Oui, oui, encore maintenant, il y a des gens qui vivent de leur blog. Il y en a qui vont te dire YouTube, c'est pris, il y a plus de place sur YouTube. Et puis tu as des gens qui arrivent comme ça et qui vont qui vont faire une petite chaîne YouTube, qui vont la faire monter très vite, qui vont trouver la monétisation, etc. Il y a des gens qui vont dire ouais, la monétisation sur YouTube, ça rapporte rien. Les YouTubeurs, c'est des créateurs pauvres. Et il faut faire des formations à la place. Et puis à côté de ça, t'as des gars qui ont des chaînes YouTube qui leur apportent 5 à 6 000 euros par mois et ça suffit largement pour vivre parce que en fait, ils ont trouvé un moyen de le faire. Et tu vas me dire, oui, mais comment je fais, moi, pour trouver mon truc? Eh bien, en fait, il faut te rappeler que tout fonctionne, mais pas pour tout le monde. Et que, en fait, tu n'es pas comme tout le monde, tu n'es pas comme les autres, et qu'il y a des choses qui fonctionnent pour les autres que tu n'es pas prêt à faire, que tu n'as pas envie de faire, que tu n'as t'as pas la fibre pour le faire, et ou alors tu n'as pas encore les outils pour le faire, les connaissances en toi, l'assurance pour le faire et tout. Et donc, que tu ne peux pas le faire maintenant, mais que ça n'empêchera pas de le faire peut-être un jour, en tout cas d'essayer de le faire. Ce que je veux dire par là, c'est que ne recopie pas ce que font les autres quand ça marche pour eux, inspire-toi de ce que font les autres et que tu te sens capable de faire. Là, c'est un truc qui est vraiment très important. Pourquoi je te dis ça ? Parce que tu peux regarder, par exemple, en prendre la vidéo. Tu vois, j'ai regardé le documentaire de Squeezie, fait par son monteur et tout, tu vois, le gars qui le filme. Et il y a un truc qui est intéressant dans Squeezie, c'est qu'il fait des vidéos avec de plus en plus de budget, tu vois, de l'entertainment, etc. et tout. Et tu pourrais te dire, sur YouTube, pour vivre de YouTube, on pourrait faire des vidéos de plus en plus grosses, avec comme des émissions télé, etc. Mais en fait, ça marche pour Squeezie. Alors, je te rappelle que Squeezie est certes le plus gros YouTuber et que, par contre, il a dédié une grande partie de sa vie à faire ça. Il est tombé à un moment donné aussi, il s'est bien entouré, il a réussi à percer, il a fait des choses, il a un mode de fonctionnement particulier. Il y a un truc, j'en ai parlé il y a pas longtemps, mais Squeezie, c'est le mec qui est un peu bizarre et qui parle à des gens qui sont un peu bizarres comme lui au départ. Hein, voilà. Et puis, petit à petit, ça s'étend. Hein. Mais on est tous un peu bizarres et on parle tous à des gens un peu bizarres comme nous. Il y a des gens qui, quand je parle de course à pied, vont me trouver très bizarre. Une discussion que l'autre jour j'ai eue hier, qui était rigolote, c'est dire, je disais, on va pas faire, j'ai un épisode de podcast de 2 heures sur le renforcement musculaire, mais t'es pas obligé de faire 2 heures de renforcement musculaire pour écouter un épisode sur le renforcement musculaire pendant 2 heures. Hein, et quelqu'un me dit, ouais, mais ce serait débile ce truc-là. Je dis, tu sais, le record du monde de gainage en planche, c'est 10 heures. Alors, faire 2 heures de gainage, pourquoi pas? Il me dit, c'est bizarre. Je dis, ouais, mais tu sais, il y a des gens qui courent 24 heures aussi, qui courent pendant 24 heures. Il me dit, c'est bizarre. Je dis, ouais, c'est bizarre. Mais moi, je fais partie des gens qui ont couru en 24 heures. Donc, les gens me regardent en me disant, quoi, t'as couru en 24 heures? Mais c'est bizarre de faire un 24 heures en tournant en rond. Ouais, je sais, c'est bizarre. Mais pourtant, j'ai pris beaucoup de plaisir. Donc, ce que je veux te dire, en fait, c'est que nous sommes tous des bizarres, en fait. Nous sommes vraiment tous des bizarres. Et que par là, en fait, on est juste dans la recherche, nous, hein, quand on crée ce qu'on fait, d'autres gens bizarres qui se reconnaissent dans ce qu'on fait, dans nos bizarreries à nous, en fait. Faut pas s'étonner. Ta petite obsession qui te paraît bizarre et qui paraît bizarre pour tout ton entourage, en fait, elle est plus bizarre pour toi, elle devient normale. Et pour d'autres personnes, en fait, ils se disent « Waouh !» Et moi, je veux faire la même chose, ou je suis dans le même démarche, ou je veux faire exactement la même chose. J'en reviens au tricot, en fait. Tu peux penser, quand tu fais du tricot, que tu es bizarre parce que on dit, c'est un truc de mamie, et tout. Pourquoi tu fais du tricot? C'est pour les mamies, et tout. T'es un peu bizarre. Et tu pourrais dire, oui, mais moi, j'adore le tricot, je fais du tricot, je fais ça et tout. Et tu pourrais dire, je vais faire des vidéos sur le tricot, et qu'il y ait des gens qui disent, ouais, j'adore tes vidéos sur le tricot et tout. Je voudrais bien faire, moi aussi, des vidéos sur le tricot. Moi, Ok, ouais. Ou alors sur d'autres choses. Ou alors, tiens, les modèles que tu as fait dans ton truc de tricot, tu pourrais pas les partager pour que moi aussi je les fasse. C'est comme ça qu'il y a des gens qui ont monté un business sur le tricot. Tu comprends ce que je veux dire. Mais je veux dire par là après, qu'à partir de ce point-là, hein, là je t'ai parlé de YouTube, mais alors faire du podcast sur le tricot, c'est pas très facile. Mais il y en a qui l'ont fait sur du blog. Il y en a qui pourraient le faire sur de la micro-vidéo, par exemple, sur Instagram, sur TikTok. Il y en a qui pourraient le faire avec des e-books, avec des bouquins qui vont imprimer, qui vont mettre sur Amazon et tout, tu vois. Tu pourrais faire plein de manières, en fait. Mais il y a une seule manière qui te correspond à toi. C'est-à-dire que il y a des trucs que tu vois, et j'en reviens à Squeezie. Ce que fait Squeezie, si tu veux faire la même chose que Squeezie pour percer sur Internet, tu vas te casser les dents quasiment à coup sûr, parce qu'il le fait, parce qu'il a des moyens, il a l'expérience, il s'est entouré, il est capable de mettre 300 ou 400 000 euros de budget sur une seule vidéo maintenant qu'il a grossi. Mais au départ, il a commencé avec aucun moyen dans sa chambre. Donc déjà, c'est un premier point. Donc tu peux te dire aussi, et c'est ça qui est important, c'est que quand tu regardes les gens qui marchent sur YouTube, rappelle-toi que Squeezie, ça fait 15 ans qu'il fait de la vidéo, ou 10 ans, etc. Et que toi, si tu commences maintenant à faire de la vidéo, tu commences maintenant. Quoi, voilà, j'en reviens à cette histoire des Beatles. Tu commences la guitare, tu n'es pas un Beatles, hein. Donc quand tu commences à faire la vidéo, tu n'es pas Squeezie. Ce qui est normal. Et quand tu commences à faire du podcast, c'est normal que tu ne parles pas dans ton micro comme moi je parle dans mon micro avec mes 1200, 1300 ou 1400 épisodes de podcast derrière moi. Mais c'est tant de podcasts. C'est totalement logique, mais vraiment logique. Si tu veux t'en convaincre, tu vas écouter dans les archives, tu prends la première saison, tu prends les premiers épisodes, tu prends l'épisode 12 qui s'appelait « Je ne sais pas quoi raconter dans cet épisode, je n'ai pas de titre, mais je dois faire un épisode de podcast quand même » pour te constater que ces épisodes-là étaient vraiment extrêmement merdiques. Bref, c'est la logique des choses. Mais maintenant, toi, tu as aussi des manières d'être, une manière de faire les choses, des aspirations, une expérience, des choses dans lesquelles tu es à l'aise, des choses dans lesquelles tu n'es pas à l'aise. Tu as ton métier que tu as fait jusqu'à maintenant, tu as tes connaissances. Et par rapport à ce que tu sais faire, par rapport à ce que tu aimes faire, par rapport à ce que tu aimerais découvrir, eh bien, il y a des choses que tu te sens capable de faire, il y a des choses que tu aimerais faire, il y a des choses dont tu te sens pas capable du tout de faire, des choses que tu n'as pas du tout envie de faire. Et donc, ce n'est pas parce qu'il y a un gars quelque part là qui te dit que lui, il gagne 10 000 euros par mois en faisant telle chose que tu dois exactement faire la même chose que ce que ce gars est en train de te dire. Non, parce qu'en fait, ce qu'il est en train de faire, il le fait à sa manière et tu vois pas une grosse partie de ta tête de merde qu'il a à gérer. Ça, c'est un premier point. Et puis, tu peux te dire que tu pourrais y arriver par un autre moyen. Je te donne un exemple et pour ça que tu comprends aussi pourquoi mon intro, elle a changé et que je te dis que je suis un slow preneur et un solo preneur. J'écoutais l'autre jour quelqu'un qui disait faire des formations en ligne, il faut pas faire ça, faut faire ci, faut faire de telle manière, faut faire un truc un peu hybride. Enfin, voilà un truc un peu hybride. Et ce qui est intéressant dans ce truc hybride, le podcast en lui-même était intéressant, tu vois, ce qu'il racontait, c'était intéressant. Mais en fait, le truc qu'il disait, ben, pour vivre, pour faire ça, il faut embaucher un marketeur, un customer manager, donc un customer manager, un success manager ou je sais pas quoi. Donc, quelqu'un qui gère les clients, quelqu'un qui gère le succès des clients, quelqu'un qui va vendre. Il faut avoir des vendeurs, etc. Et là, tu te dis, voilà, il faut gérer une équipe et tout pour faire ça. Il faudrait que j'ai une équipe avec une personne, deux personnes, trois, quatre personnes et tout. Moi, dans mon monde à moi, je n'ai pas envie d'avoir une équipe à gérer des personnes, d'avoir une équipe comme ça. Et surtout, je n'ai pas envie de créer une entreprise telle que ça ressemble avec des salariés. Tu vois, j'ai pas envie de ça. Moi, quand je dis le solopreneur et le slowpreneur, tu vois, c'est plutôt sur le rythme de dire, on n'est pas obligé de passer 10 heures par jour pour avancer et créer du contenu en ligne et créer une entreprise de création de contenu en ligne, et infopreneur, coach, etc. Ça, c'est un premier point. Et j'en ai déjà parlé, solopreneur, c'est qu'on n'est pas obligé de monter une équipe énormissime pour faire ce qu'on fait. On peut le faire avec une équipe petite. Ce qui ne veut pas dire, en fait, pas d'équipe du tout. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien imaginer avoir une toute petite équipe. Je pourrais très bien imaginer travailler qu'une ou deux personnes. Tu vois, si là, aujourd'hui, là, maintenant, comme ça, j'avais exactement le budget, le chiffre d'affaires, il y a deux, trois personnes avec lesquelles je me dis, bah tiens, je pourrais leur confier une personne pour le marketing, une personne pour, par exemple, gérer, faire mes carousels sur les réseaux sociaux, etc. Par exemple, tu vois, je pourrais très bien dire ça. Est-ce que je confierais le montage de mes épisodes de podcast? Probablement non, parce que ça me prend tellement pas de temps et c'est tellement vite fait. Mais par contre, tu vois, le montage de vidéos pour YouTube, pourquoi pas? tu vois, ou transformer mes vidéos en petits réels et tout, pourquoi pas, tu vois, donc des choses comme ça. Mais ça serait pas de monter une équipe avec plein de personnes, etc., tu vois, non, ce truc-là, je dis non, tu vois. De même que, par exemple, quand j'entends qu'il faut un customer manager et un customer success manager, moi je me dis, en fait, dans mon monde à moi, quand les gens viennent dans mon monde à moi, dans ma communauté à moi, c'est à moi qu'ils ont envie de parler, c'est pas à quelqu'un d'autre que moi qui leur donnerait des conseils, c'est à moi. Donc à un moment donné, oui, mais pour avoir quelqu'un qui pourrait avoir ce rôle là eh ben il faudrait quelqu'un, que ça soit moi ou quelqu'un qui soit très proche de ce que je pense, comment je le pense, etc., et donc il serait constamment à faire des allers-retours en me disant qu'est-ce que t'en penses, j'ai bien répondu, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et je sais qu'au bout d'un moment ça me gaverait prodigieusement cette histoire. Donc, je vais pas le faire, en fait. J'ai pas envie de le faire, je vais pas le faire. Et c'est pour ça qu'en fait, j'en reviens à mon idée des micro-formations. C'est-à-dire que, il y a des gens qui vont te dire que pour gagner ta vie sur Internet, il faut que tu fasses une grosse formation. Et ils vont te dire, voilà, faut faire une formation à 500 euros. Si tu vends 20 formations à 500 euros, tu gagnes 10 000 euros par mois. Bam. Et maintenant, tu vas te dire, une formation à 500 euros. Dans mon domaine, est-ce que je peux faire une formation à 500 euros? Dans le domaine du business, je peux faire une formation à 500 euros. Dans le domaine du podcasting, il y a des gens qui vendent des formations à 600, 700, 800, 1000 euros, 2000 euros et tout. Alors, c'est pas des formations, c'est des programmes complets avec du coaching, avec des choses comme ça. Dans le domaine de Sam, de la course à pied et tout, est-ce que je peux vendre des formations à 500 euros? Très probablement pas. Est-ce que je peux vendre du coaching à 500 euros? Si je te dis une séance de coaching à 500 euros, non. Si je te dis du coaching, il y a des gens qui vendent des mois de coaching à 90 euros, d'autres à 190 euros dans mon domaine, qui les vendent très bien. Il y en a d'autres qui les vendent à 49 euros, hein, leur coaching. Hein. Un mois de coaching, 49 euros, et d'autres, 190 euros. J'ai regardé le marché, attention, attention, un truc qui est important, qui est là, c'est super important. Il y a un gars qui est dans le, qui fait partie, j'ai perdu son nom, Stevenard, qui avait lancé une offre de coaching, je sais pas où ça en est. Il vendait 49 euros l'offre de coaching, le suivi de coaching, et lui, il a gagné l'UTMB. Trois fois. Donc, c'est l'un des meilleurs coureurs au monde. Et il vend une formation, un coaching avec un autre coureur. Il vend ça, 49 euros, avec des programmes et tout. Ils disent personnalisés sur une plateforme pour te vendre des programmes de pour faire l'UTMB. T'as d'autres gars qui ne sont pas du tout connus, qui n'ont jamais fait l'UTMB, qui font du trail, qui font des trails, etc., qui vont vendre du coaching à 190 euros par mois. Pourtant, ils n'ont pas un bout de la bout de connaissance de Tevna. Et tu peux te dire, c'est pas logique l'histoire. C'est-à-dire que si maintenant je prenais un autre truc, si j'étais formé au foot par, on va dire, le meilleur joueur du monde. Allez, Zidane fait des formations sur le foot. Et puis, t'as un petit footballeur qui joue en deuxième division qui te fait des formations sur le foot. Théoriquement, tu devrais te dire que Zidane va te vendre sa formation très chère et que le petit footballeur peut pas te vendre la formation très chère. Oui, si tu réfléchis sur l'image, etc., c'est sûr qu'une heure de consulting de Zidane sur le foot, normalement, devrait valoir beaucoup plus cher. Sauf, si derrière, il met des ingrédients totalement différents et que le gars qui te fait le truc à 190 euros pour revenir à la course à pied va se mettre à te dire, bah non, on se voit toutes les semaines, je t'envoie des plans personnalisés, on va parler de ton alimentation, on va parler de ça, toutes les semaines, je te parle au téléphone, tu m'envoies des messages, je te fais un sourd direct, etc., et tout. Et en fait, il peut vendre avec en vendant quelques coachings dans l'année, comme ça par mois, en ayant quelques clients comme ça, il peut très bien vivre et il peut être très efficace pour accompagner des gens, y compris sur des courses qu'il ne connaît pas, mais sur des stratégies d'entraînement, sur les méthodes d'entraînement, sur l'énergie, sur le dialogue, sur tout un tas de choses comme ça, et que ne fera peut-être pas Zidane, parce que Zidane, il a peut-être pas juste envie d'avoir quelqu'un au téléphone toutes les semaines, tu vois. Lui, Zidane, qu'est-ce qu'il va te vendre? Il va te dire, et c'est un peu, tu sais, le principe des grands conférenciers, des Barack Obama. Barack Obama, si tu veux avoir Barack Obama en consulting, il va te faire une séance de consulting, il va te vendre ça peut-être 100 000 euros, tu vois. Mais il va jamais faire des petits programmes de formation qui va te vendre ça à quelques euros et tout. Et il va jamais faire un truc en disant, je vais prendre 10 clients et chacun, je vais les avoir une heure toutes les semaines et tout. Parce que par rapport à son temps, il pourrait pas le faire. Mais c'est Barack Obama, c'est Zidane et puis c'est les autres. Mais ce que je veux te dire, pourquoi je te donne cet exemple-là, qui est amusant, tu vois, sur ces histoires, c'est comment ça se fait que tu as un gars qui a gagné la plus grande course de trail te vend une formation pas chère et que l'autre qui n'a pas fait ça te vend un truc beaucoup plus cher. Il y a pas que du marketing, il y a pas que de l'image, etc. Il y a tous les ingrédients qu'ils mettent à l'intérieur. Mais ce que fait le gars qui vend ça tu vois, 190 euros. L'autre qui le vend 49 euros, il a peut-être pas envie de le faire, en fait. Il a peut-être pas du tout envie de le faire, son truc. Pourquoi? Parce que s'il se mettait à faire du coaching comme ça, à avoir des gens toutes les semaines, et qui se disent, bah, tiens, je vais faire plus cher, mais je vais passer, peut-être dans ma semaine, je vais avoir 10 ou 15 clients, donc j'ai passé 15 heures au téléphone par semaine. Et ben, quand il regarde sa semaine, il va dire, oh là 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 là, punaise. Alors, attends, pour faire ça, il faut que je fasse du marketing pour vendre plus cher. Il va falloir que j'ai une plateforme pour avoir des trucs, des espaces. Il faut avoir, que j'ai du temps au téléphone pour les appeler. Les semaines où j'ai des courses, ça va me prendre la tête. Les week-ends, je vais pas pouvoir faire leur bilan avec eux. Je vais pas pouvoir faire ça, je vais pas pouvoir faire ça. Et en fait, il va se rendre compte que oui, il pourrait probablement faire autrement que ce qu'il fait, mais qu'il n'a peut-être pas la bande passante pour le faire, et peut-être qu'il n'a pas du tout envie de passer du temps au téléphone avec les gens, que lui, son truc, c'est d'aller courir, et que en vendant des programmes à 49 vendus sur un espace de formation où finalement il y a du dialogue qui peut se faire à la limite par quelques messages échangés, et puis peut-être par quelqu'un, un fameux customer manager ou je sais pas quoi, il va pouvoir le gérer et que ça va pouvoir marcher sur un volume, mais qu'il n'a pas du tout l'envie, la bande passante, de faire quelque chose sur un truc plus gros où il pourra avoir des gens directement au téléphone. Ou alors, s'il avait des gens directement au téléphone, il leur vendra encore plus cher parce qu'il profiterait de son aura. Donc, ce que je te dis là-dedans, en fait, c'est que tout peut marcher, tout peut fonctionner, mais que vraiment, dans l'histoire, c'est que tu dois choisir ce qui, toi, te correspond à ton mode de vie que tu as envie de vivre. Et moi, dans mon mode de vie, je vais en revenir en micro-formation, c'est que je n'ai pas envie de passer du temps j'avais expliqué pourquoi, par exemple, j'ai abandonné mon histoire de boost camp. J'ai fait un épisode là-dessus. Dans mon boost camp, je me sentais pas l'énergie, parce que j'avais pas l'énergie à ce moment-là, et je me sentais pas de dire on part sur 3 mois, et pendant 3 mois, tous les vendredis, on fait 1 heure de session ensemble, ou tous les mardis, etc. Pourquoi? Parce que dans mon organisation, je voyais pas, parce que je me sentais pas l'énergie de le faire, parce que ça me correspondait pas. À la limite, je m'étais dit, est-ce que je peux le faire pendant 1 mois? Peut-être, probablement, mais ça serait pas le même volume, ce serait pas tout à fait ce que je voulais. Mais je peux le faire pendant 1 mois peut-être, etc. Mais pas plus, parce qu'au bout d'un moment, ça va m'énerver. Est-ce que je peux faire des programmes, des gros programmes avec plein de vidéos et tout? Par exemple, la formation SAM, c'est une formation qui a un gros volume de vidéos et tout. J'ai vu ce que c'était, j'ai vu l'engagement, ça m'a plu de le faire et tout. Mais actuellement, je n'ai pas envie de le refaire. Par contre, ce que j'aime bien, tu vois, là tout de suite, c'est que j'ai la certitude, et par rapport à ce que je consomme et ce que je fais, c'est qu'on a besoin d'avoir des grandes stratégies, peut-être dans certains cas, mais on a besoin d'avoir des petits contenus précis, chirurgicaux. J'apprécie ça, tu vois, d'avoir ça dans des livres, d'avoir ça dans des vidéos, mais une vidéo YouTube, au bout d'un moment, t'en as un peu marre, et puis il faut un peu de méthodologie, il faut pouvoir découper un peu la vidéo en petits morceaux, tu vois. Moi, il y a des trucs, par exemple, si je veux t'expliquer comment je vais faire le SEO de mon podcast. Le SEO, c'est-à-dire le référencement de mon podcast sur les plateformes, avec les mots-clés, avec des choses comme ça, je peux pas le faire dans une vidéo YouTube. La vidéo YouTube, elle va durer 1 heure et quelques, mais il faudrait que je la segmente, il faudrait que je te donne des exercices. J'aurai un tableau à te partager avec des petits cahiers d'exercices, tu vois, avec en disant, bah tiens, tu remplis ce tableau, on va faire un suivi, voici comment tu vas pouvoir le faire, la méthodologie, découper ça en une stratégie plus avec des petites vidéos et tout, tu vois. Donc, comment je vais le faire? Eh ben, ça correspond à des petites formations, une petite formation qui pourrait faire autour d'une petite heure, que moi je vais pouvoir faire relativement facilement, que je pourrais faire évoluer, je pourrais faire des compléments régulièrement et tout. Si je fais plusieurs formations sur plein de petites thématiques comme ça, le but du jeu à la fin, c'est que oui, peut-être ça fera l'équivalent d'une grosse formation que je pourrais vendre dans une sorte de pack, tu vois, parce que je peux faire une petite formation sur le SEO, je peux faire une petite formation sur comment on fait une vignette précisément, je peux faire une petite formation sur comment on enregistre un podcast à distance, ah bah celle-là elle est déjà faite, ça fait un moment que je l'ai, pourrais faire des petites formations sur, j'en ai plein dans ma liste en fait, j'en ai plein et tout, tu vois, là-dessus, et en fait, après oui, ça va faire un gros pack, donc je peux arriver à la grosse stratégie, tu vois, et tout, arriver à ça, sauf que actuellement, je n'ai pas la bande passante, je n'ai pas l'envie de faire des grosses stratégies, de même que je n'ai pas envie d'augmenter mon nombre de clients que j'ai en coaching, c'est-à-dire que j'ai un nombre de clients très réduit en coaching, je n'ai pas envie de l'augmenter, parce que si j'augmentais par exemple de quelques clients à, on va dire, 10-15 clients en coaching, et que je les avais toutes les semaines au téléphone, tu vois, ou j'en avais une semaine sur deux, comme j'ai le cas en ce moment avec certains, eh ben, ça me ferait passer peut-être une journée ou deux par semaine au téléphone. Moi, le téléphone, c'est pas mon truc, tu vois, j'aime bien ça à petite dose, j'aime bien la visio à petite dose, etc., tu vois, il m'en faut des petites doses, mais il m'en faut pas des grandes doses. Donc, Il y a des gens qui adorent passer du temps en coaching, qui passent des heures et des heures en coaching, qui passent toute leur journée en coaching et tout, qui adorent ça. Moi, ce n'est pas mon cas. Je n'ai pas envie d'avoir une grosse équipe, je n'ai pas envie de passer des heures en coaching, je n'ai pas envie de lancer des grosses formations. Et par contre, j'ai envie d'avoir des contenus qui vont avoir une durée de vie plus longue, tu vois, avec des sujets qui vont revenir dans le temps, qui sont importants, qui vont peut-être un petit peu évoluer à la marge. Mais des choses qui sont pas trop des hacks, qui sont plutôt des grands principes, mais tu vois, sur des grands principes, expliqués rapidement, un peu comme certains livres, tu vois, t'as des livres sur certains sujets, des fois, tu te dis, ouais, si le livre il faisait 50 pages sur un sujet, qui m'apprenait l'essentiel sur un sujet, ça me suffirait très largement. En plus, c'est plus facile à faire au niveau de la vente, tu vois, c'est le prix est moins engageant, t'as pas à gérer les paiements plusieurs fois, enfin, tout un tas de choses de ce type-là, parce que les paiements plusieurs fois, c'est facile à gérer par les plateformes, mais alors des fois en compta, c'est un peu la galère. Et donc, je veux dire que tu dois le savoir, mais peut-être que toi, tu as envie de faire des grosses formations, tu vois, des trucs qui font des gros trucs, fais-le. Si tu as envie, si tu t'en sens capable, si tu veux tester ce truc-là, fais-le. Mais ne le fais pas parce que tu penses que c'est la seule voie qu'il faut suivre, fais-le parce que tu en as vraiment envie. Et j'en viens à ma conclusion de cet épisode, c'est que le voyage entrepreneurial, c'est avant tout découvrir comment toi tu fonctionnes et dans quoi tu es à l'aise. Et je vais te reprendre une métaphore de la course à pied, parce que les chercheurs en course à pied, les chercheurs en chaussures, tu sais, il y a des ingénieurs qui font des analyses, qui font tester des chaussures à des coureurs et tout, qui font plein de choses dans les marques. Ils se sont rendus compte d'un truc, c'est que on peut parler en ce moment de carbone, on peut parler de plein de matières, de plein de trucs, de rebonds, de semelles, de tout un tas de trucs. Ils se sont rendus compte que les chaussures les plus rapides ne sont pas toujours les plus technologiques, mais celles dans lesquelles tu te sens le plus confortable. Les chaussures de course qui t'amèneront le plus loin sont les plus confortables, les chaussures les plus rapides sont les plus confortables. Et ça, c'est une réalité. C'est-à-dire que même avec Pierre-Ambroise Boss, qui était champion du monde, tu vois, sur sa discipline de 800 mètres, ils ont fait des tests, il a fait des courses avec des chaussures qui étaient moins technologiques, mais il a quand même gagné la course. Pourquoi? Parce que dedans, il est confortable, parce qu'il sent la piste, parce que quand il appuie avec ses pieds, il sent que derrière, il y a du re. Tu vois, il se sent bien dedans. Donc, il a envie de courir avec. Il se sent mieux dedans. Il se sent plus confortable. Il se sent plus en confiance. Donc, toi, dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. Ne chausse pas des bottes dans lesquelles tu ne te sens pas capable, ne te chausse pas, on va plutôt prendre des baskets, ne te rentre pas dans des bottes, tu te sens pas confortable, va choisir une paire de baskets dans laquelle tu te sens bien. Et franchement, tu peux courir un marathon en sabots, tu peux courir un marathon en crocs, mais si tu te sens pas bien dans des crocs, ne va pas courir un marathon en crocs, tu vas courir un marathon dans des chaussures dans lesquelles tu te sens confortable. L'entrepreneuriat étant un marathon et même une carrière de marathonien, choisis plutôt des chaussures dans lesquelles tu es confortable. C'est pour ça que moi, je crois dans le modèle du solopreneur, je crois dans le modèle du slowpreneur, et que ma logique dans tout ça, c'est de dire quoi ? On n'a pas envie de gérer des grosses équipes, on n'a pas envie de passer des heures et des heures à son bureau pour faire du contenu, pour faire du coaching, pour faire des trucs, etc. et tout. On a envie d'avoir un mode de vie équilibré, on a envie de se dire, pour certains d'entre vous d'ailleurs, vous êtes en seconde activité, c'est votre side business, donc vous n'avez même pas la capacité de le faire. Vous n'avez pas envie de créer une seconde activité qui ressemble à votre activité actuelle, c'est-à-dire que quitter sa roue de hamster de salarié pour rentrer dans une roue de hamster de freelance, c'est pas top. Et puis sortir de cette roue de freelance pour rentrer dans une roue de créateur de contenu qui tourne pendant des heures pour la même chose. C'est pas non plus l'avenir que je vous souhaite, en fait. Je vous souhaite pas ça, en fait. C'est pas cet avenir-là que je vous souhaite. Donc, le truc, hein, dans ce podcast, est-ce que le fil rouge que je vais dérouler et que je vais continuer à dérouler et que je vais vous expliquer, c'est vraiment cette logique-là. C'est comment, finalement, on arrive à se positionner soit dans quelque chose où on se sent confortable, dans lequel on a envie de rester pendant quelques temps, sur une manière de le faire qui nous correspond, de la manière dont on a envie de le faire, sur un sujet qu'on a envie de faire, même s'il y a plein de choses qui existent autour, il y a plein de modèles qui existent autour, mais il y a des modèles aussi qui correspondent exactement à ce que vous avez envie de faire et comment vous avez envie de le faire. Et en fait, c'est ce que je voulais vous dire. Et ce que je reviens là-dedans, c'est que peut-être que dans le domaine, vos concurrents et tout, vous dites, ah, il faut faire ça. Ou peut-être que dans le domaine, certains domaines, les gens vont dire, il faut faire absolument ça. Il faut faire absolument ça et ça et tout. Mais vous, vous en sentez pas bien. Mais si vous regardez, faites un pas de côté et vous changez de secteur et vous regardez d'autres domaines, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui ont un mode de fonctionnement qui est différent et qui peut correspondre exactement à celui que vous voulez. En tout cas, moi, c'est ce modèle-là que je vais dont je vais vous parler, c'est ce modèle-là dont je vais vous que je vais vous parler. Je n'abandonne pas l'idée que nous sommes des vieux mais pas foutus. Hein. L'histoire des cheveux blancs et des longues, c'est aussi ça. C'est de dire que justement, hein, on a seulement probablement passé beaucoup d'années dans cette fameuse roue de hamster, à un moment à tourner, et que quand on veut en sortir, c'est pas pour en créer une autre qui va tourner, et dans lequel on n'a toujours pas ce qu'on cherche au départ. Et ce qu'on cherche au départ, souvent, c'était d'avoir du temps pour soi, c'était d'avoir, oui, de l'argent, mais du temps pour soi, du temps pour sa famille, pour faire du sport, pour bouger. Et moi, le constat que j'ai fait, c'est que j'arrivais à 40 ans en n'ayant pas de temps pour moi, en ayant un gros ventre, en ayant des gros joues, en étant en mauvaise santé, et en ayant 30 kilos de trop. Bref, tout ça, ça a changé et je veux pouvoir le garder tout en étant entrepreneur, tout en étant à ma manière. Et c'est pour ça que le modèle start-up, beaucoup de salariés ne me plaît pas, je n'ai pas envie de ça, le modèle PME ne me convient pas, le modèle freelance en lui-même ne me convient pas non plus parce qu'il ne correspond pas à ma manière de faire, même si j'ai quelques activités freelance à la marge, voilà, j'en ai quelques-unes, beaucoup moins depuis quelques temps, mais à une époque j'étais freelance. Comme à une époque, le modèle, la formation était mon modèle de faire la formation présentielle, ce modèle de formation présentielle ne me convient plus, j'en ai changé, je suis parti sur autre chose, et cette autre chose, c'est celui que je vous déroule dans ce podcast, mais que vous pouvez suivre aussi sur LinkedIn, sur Instagram, sur mes autres podcasts, sur mes autres contenus, et sur YouTube aussi, parce que des fois je fais quelques vidéos hein, avec quelques outils, j'en ai fait une en début de semaine. Et en tout cas, je pense hein, que tu as compris comment moi je vois les choses. Je pense que je voulais vraiment reparler de ça, donc je me suis un peu étalé sur la partie, hein, sur cette idée-là qui est vraiment importante. C'est-à-dire que tout fonctionne, hein, mais tout fonctionne, mais pas pour tout le monde. Voilà, hein, rappelle-toi, tu n'es pas à l'école, donc tu peux le faire comme tu as envie de faire. Je t'ai parlé moi de mes futures formations, je t'ai parlé un petit peu comment je voyais, je t'ai parlé de mon engagement avec moi-même, hein, c'est cette histoire de augmenter mes stats de podcast sans augmenter mon temps de travail, c'est exactement la démarche que je viens de te présenter sur le temps, sur le slowpreneur, sur le solopreneur, etc. Et puis tranquillise-toi aussi, hein, c'est-à-dire que si t'as des gens qui te font du mal sur internet, ne serait-ce qu'en le regardant parce que ça te place dans la comparaison, arrête, enlève-les, hein, même si c'est les leaders de ton domaine, etc. Enlève-les, bazarde-les, mets dans un coin, et puis fais-toi les choses comme toi tu sens que tu dois les faire, comme toi tu as envie de les faire. Autorise-toi ce truc-là, parce que de toute façon, si tu ne l'autorises pas toi, il n'y a personne d'autre qui te l'autorisera. Et donc autorise-toi à le faire, autorise-toi à penser comme tu veux. On a un cerveau, hein, un cerveau qui est extrêmement bien foutu, et il consomme 20% de notre énergie. C'est autant qu'il serve à quelque chose. Autre chose que à regarder ce que font les autres et essayer de se demander comment on peut faire la même chose qu'eux. Non, voilà, trouve ta voie, fais-le à ta manière, fais-le comme toi tu le sens et comme toi tu as envie de le faire et comme toi tu te sens le plus confortable de le faire. Parce que du moment que tu seras confortable pour le faire, tu le feras plus longtemps, mieux, de manière plus à l'aise, de la manière qui te convient vraiment à toi. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir construire quelque chose dans le temps, quelque chose qui te ressemble, quelque chose dans lequel tu te sens pas un imposteur, dans lequel tu te sens en confiance et dans lequel tu te sens bien. Voilà. Ceci étant dit, maintenant je clôture cet épisode, je te souhaite une très 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 belle journée, un très bon week-end si tu écoutes cet épisode le week-end ou si tu t'approches du week-end, une très bonne semaine si c'est début de la semaine, une très bonne journée, une très bonne soirée à quel que soit le moment, t'as tous les liens dans les notes de l'épisode et on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode. Ciao ciao mes champions et mes championnes.